Expression Directe. Que vous soyez enfant, adolescent ou parent, vous souhaitez réagir à l'actualité ou prendre la parole? C'est tous les samedis à 11h sur le 95.5.
Salut tout le monde, c'est Manon. J'espère que vous allez bien ce samedi matin. Vous êtes sur l'émission Expression Directe sur LFM Radio. Il est 11h tout pile et pour cette nouvelle édition, je suis accompagnée de deux chroniqueurs, Dylan et Jade. Et d'ailleurs, ils ont tous les deux été stagiaires chez LFM. Ça va la forme?
Ça va, ça va.
Dylan et Jade, ils viennent tous les deux de l'E2C pour les intimes, plus communément appelée l'école de la seconde chance. Est-ce que Jade, tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi l'E2C ?
Alors l'E2C, à mes yeux, c'est une formation qui permet aux jeunes de s'orienter vers, par exemple, un futur métier ou une école.
Quelle sorte de jeunes peuvent aller à l'E2C justement ?
Bah en fait, c'est n'importe quel jeune. À partir de 16 ans, entre 16 et 25 ans.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets personnels et professionnels, du coup ? Pourquoi vous êtes à l'E2C ?
Alors, bah, moi, du coup, j'ai arrêté ma première année de licence, en fait, que j'ai validée. C'était en licence cinéma et audiovisuel. Et du coup, en fait, c'est la mission locale qui m'a reconduit vers l'école de la deuxième chance, malgré que j'avais déjà quand même un cursus universitaire. Et j'ai eu la chance d'être quand même accepté. Et en fait, là, mon projet professionnel, ça serait de trouver un métier en rapport avec la culture. Si c'est possible, plus vers les livres. Mais ça ne me dérangerait pas de travailler dans un musée ou même à la radio. Et du coup, bah voilà, je fais plein de stages. J'ai fait un stage en médiathèque. J'ai fait du coup, là, j'étais en stage à LFM Radio. Et le prochain, normalement, ça sera peut-être au musée.
Trop bien. Et toi, Jade ?
Alors, moi, je veux devenir rénovatrice d'œuvres d'art, me spécialiser dans le tableau. Je vais m'inscrire pour un Greta. Ensuite, je vais faire une formation à l'école Boulle. Et ensuite, je serai officiellement diplômée rénovatrice d'œuvres d'art.
Génial.
Voilà.
C'est vrai que nous, on reçoit beaucoup de stagiaires de l'E2C et c'est chouette de pouvoir travailler avec vous et surtout de vous faire découvrir les métiers de la radio. Toi, Dylan, c'est ton dernier jour, mais oui. J'espère que tu as bien kiffé ta semaine quand même. Tes trois semaines.
Oui, trois semaines et franchement, ouais, c'était cool. J'ai bien travaillé. Je suis trop content d'avoir fait, d'avoir pu découvrir un métier auquel bah, je ne pensais pas en fait que j'allais pouvoir faire en fait. Et au final, ouais, ça peut être une option.
Et toi, Jade ?
Bah, honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je continue à être bénévole, à prêter ma voix, etc. à la radio. Donc, ouais, franchement, c'était un vrai régal et un bonheur de découvrir ces métiers.
Bon, en tout cas, vous nous avez préparé un programme assez quali aujourd'hui, hein, puisqu'on va accueillir d'abord Marguerite Boutrolle, qui est l'autrice de la bande dessinée Fraîche. Puis Jade, bah, tu nous parleras des classiques dans tout ce qu'on peut voir, écouter aujourd'hui. Et enfin, vous avez tous les deux préparé des petites expositions et des lectures pour ce mois d'avril. Hein. Donc restez bien à l'écoute sur LFM Radio 95.5.
LFM Radio 95.5. 5.5.
Et on va fraîchement commencer l'émission avec Marguerite Boutrolle, hein, l'autrice de Fraîche, qui est sortie en février dernier. Et je suis accompagnée de Jade pour ça. Pour résumer un petit peu, on a Pia qui a 16 ans, hein, qui est une jeune fille, voire même une jeune femme, qui débarque dans un nouveau lycée qui est privé. Et elle, son rêve, bah, c'est d'être comme les autres, hein, populaire, avec des marques et surtout avec de l'expérience sexuelle. Donc ça aborde tous les enjeux d'une jeune de 16 ans qui veut s'adapter dans un monde nouveau et surtout être acceptée des autres. En tout cas, pour parler de ce livre, j'ai le plaisir d'accueillir Marguerite Boutrolle. Troll elle-même. Ça va Marguerite ?
Oui, merci, bonjour.
Bonjour. Vas-y Jade, du coup, je te laisse poser la première question.
Alors, on va commencer avec pourquoi avoir écrit Fraîche ?
Alors, j'ai écrit Fraîche parce que je voulais parler de l'adolescence et surtout de l'intériorisation du sexisme à l'adolescence. Voilà, et je voulais parler de cette période comme d'un moment mélangé de petite honte et de fierté, d'une époque à la fois ultra galvanisante et en même temps avec de la violence insidieuse, un peu truffée au quotidien, voilà. J'aimais bien ce mélange, ce cocktail, puis voilà, je pense qu'il y avait des choses à dire en effet sur le sexisme qui n'est pas seulement quelque chose qui est imposé mais qu'on intériorise pas mal. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'avais 16 ans.
D'accord. Pourquoi l'avoir appelée Fraîche ?
Je l'ai appelée Fraîche parce que quand j'étais au lycée, la fraîcheur, voilà, dire c'est une fraîcheur, c'est pas une fraîcheur, elle est fraîche, c'était un terme qui revenait énormément dans les conversations. Voilà. Et puis, j'aime bien la polysémie du mot, le fait que ce soit aussi un adjectif qui est utilisé pour des aliments, le côté frais, bon, le contraire c'est périmé, voilà, et en même temps qui évoque aussi la douceur, quelque chose d'un peu floral. Voilà, donc pour l'anecdote, la définition du mot frais, fraîche, est au dos du livre.
Voilà. Toi, Jade, c'est quelque chose qui te dit encore frais, ou cette meuf, elle est fraîche parce que, pour petit rappel, hein, pour contextualiser, Jade, elle a 17 ans, donc elle est très proche de l'âge de Pia dans le livre. Et voilà, on se posait la question, justement, si ça se dit toujours, ce mot, ou pas.
On me l'a déjà dit, que ah, t'étais fraîche, etc., mais c'était pas du tout répandu.
Ok, ça va, c'est pas trop devenu has-been quand même, comme mot.
Non, honnêtement, ça va, ça passe encore.
Oui, c'est vrai qu'en 2010, on le disait tout le temps, quoi.
Ouais.
Parce que l'époque du livre, voilà, c'est 2010. Même si c'est une fiction, j'ai voulu vraiment ancrer l'histoire dans un contexte. Voilà, c'était sur toutes les bouches en permanence.
Au bout de 12 ans, bah, y a un sacré décalage, surtout avec les mentalités. Donc, quand on a décidé de libérer la parole par rapport à ça, il y a eu le taf qui s'est fait parce que, par exemple, moi, j'ai un très bon rapport avec ça. Dialogue, attention, je parle d'aucun autre rapport, attention.
Mais c'est que vous êtes ce qu'on appelle un peu la Me Too génération. Vous avez grandi dans cette génération de ce qu'on appelle le post-Me Too. Voilà, vous êtes beaucoup plus renseignée, éduquée sur ces questions de consentement, etc. Et je pense que c'est là tout l'intérêt du livre qui se passe en 2010. C'est que même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ça aborde quand même des questions telles que le consentement, comment on aborde la sexualité avec les parents, comment on se fait accepter par les autres via les vêtements, les sorties, faire comme les autres, etc. Et l'influence en fait que les autres peuvent avoir sur soi. Je pense qu'il y a des sujets qu'on peut quand même retrouver encore aujourd'hui. Et bon, peut-être pas toi, Jade, qui est une âme très libre. Et...
ah oui, oui, là, c'est plus que libre. Mais
je pense qu'il y a beaucoup de sujets auxquels on peut s'identifier encore aujourd'hui. C'est juste que vous avez peut-être plus de renseignements, déjà sur vos propres corps, oui. Vos propres corps en tant que jeune femme, ce que nous, on n'avait pas à l'époque. On ne savait même pas ce que c'était un clitoris, on ne nous l'apprenait pas à l'école.
C'est vrai.
Nous, on nous apprenait à mettre un préservatif sur une banane à l'époque.
Ah oui, on a fait ça. Nous, c'était les concombres, ça.
Ah, les concombres. Moi, ça va, ça change pas trop, tu vois, au final.
Non, puis en fait, en 2010, on n'avait pas on n'avait pas l'usage des réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais on avait aussi un peu moins l'usage d'Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait quand même des connexions à la maison. Je pense qu'on aurait pu tous avoir en fait, l'accès à beaucoup de documentation sur le plaisir, l'érotisme, la découverte du corps, qu'on soit une jeune fille ou une jeune femme ou un jeune homme. Mais pour X raisons, en tout cas, dans le monde de Pia, la sexualité est plus un sujet de mec. Voilà, qui regardent du porno, qui ont des fantasmes nourris par le porno, et les jeunes femmes occupent en fait ce territoire plus de la naïveté, un peu de la pudeur, d'être gênées par les blagues de cul au fond de la classe. Mmh. Voilà, donc c'est surtout ça que j'ai voulu montrer dans les années 2010.
Oui, et puis les jeunes filles du coup qui en parlent de la sexualité, etc., c'est plus elles s'en vantent, c'est pas elles en parlent parce que je sais pas, elles ont pris leurs pieds ou voilà.
C'est pour donner une image, je pense aussi,
oui,
voilà, pour être un peu populaire et ouais, je pense que c'était ça.
Oui, dans le livre, les conversations sur la sexualité sont en effet plus de l'ordre social, c'est-à-dire comparaison des expériences. On rentrait pas tellement dans le détail de savoir si on a pris du plaisir ou non, si on a eu mal à quel moment, comment s'est fait le dialogue en fait autour de la sexualité, parce que en fait encore une fois il y avait pas tellement de dialogue là-dessus. On était très loin du jeu cool et mignon que pouvait être la sexualité. En tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu et j'ai voulu illustrer ça dans ce livre. Voilà, ce point-là autour de la sexualité.
Et moi, je dois dire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que c'est un livre qui est très imagé. Parfois, il y a peu de dialogue sur certaines parties, mais pourtant, on ressent énormément de choses. Par exemple, il y a beaucoup d'émotions qui passent par les images. Du coup, ma question, c'était pourquoi le choix du noir et blanc ?
Oui, alors j'ai voulu faire un traitement graphique en noir et blanc. Je voulais que cette histoire d'adolescence soit une histoire donc à la fois de souvenirs, petits frissons réjouissants de l'adolescence, et en même temps qu'il y ait une impression de malaise en fait. Et pour moi le noir et blanc il incarne un peu un rapport direct un rapport direct entre le dessin et le lecteur. Pour moi la couleur c'est assez bavard, ça peut être très beau, c'est très onirique, ça peut être attaché à des vécus pétillant, frais, acidulé, des impressions de douceur. Et voilà, donc fraîche, c'est une histoire d'adolescente, mais j'ai pas voulu esthétiser l'ensemble comme quelque chose de mielleux ou naïf. Voilà. Ouais. Pour moi, c'était vraiment traiter la violence insidieuse dans ce vécu, donc c'était le noir et blanc le plus adapté.
De manière un peu plus crue, du coup.
Un peu plus crue, un peu plus directe, en fait. Mm-hmm. J'ai pas voulu faire du cru, j'ai voulu faire du direct. Par exemple, dans la scène du rapport sexuel, qui est une scène assez centrale dans le bouquin, j'ai dû... la redessiner plusieurs fois parce que je me suis rendu compte que je la dessinais de façon un peu érotique au début, donc ça pouvait susciter chez moi même un peu de désir. Et en fait, je voulais pas de ça, je voulais pas érotiser la planche, je voulais quelque chose qui représente vraiment le vécu donc de l'héroïne Pia, et je voulais quelque chose de réel et de direct. Donc j'ai même décidé de dessiner des corps nus sans pour autant les regarder avec un male gaze, quoi.
Ouais.
Voilà.
Pour toi, c'est quoi la morale de Fresh ?
Je sais pas si je donnerais une morale, je crois que j'ai voulu plutôt poser des questions.
D'accord.
À savoir, qu'est-ce que le regard des autres fait sur le désir d'une adolescente ? Qu'est-ce que le patriarcat qui s'insère un peu au quotidien par plein de petites situations anodines, le rapport aux vêtements, le rapport à l'adulte, le rapport au professeur, qu'est-ce que ce patriarcat-là, qui s'insère de façon insidieuse dans le quotidien, fait aux relations sociales, mais fait aussi à l'adolescente qui est en construction, qui se cherche, qui cherche ses désirs. Et en fait, j'ai essayé de pas forcément donner de morale, mais de pointer du doigt plusieurs petits dysfonctionnements. Voilà.
Quel conseil donnerais-tu à Pia ?
C'est difficile de donner un conseil parce que c'est moi qui ai créé Pia de façon un peu omnisciente. Mais j'ai compris la question. J'ai compris la question. Je pense que je dirais peut-être à Pia de se demander pourquoi le regard des autres est si important pour elle, en tout cas d'où ça vient. Peut-être d'être un peu plus douce avec elle-même aussi. D'être dans un rapport un peu de questions en fait à son vécu, plutôt que de toujours vouloir suivre un mouvement qui la dépasse. Voilà.
Ouais. Moi, je pense que le conseil que je lui donnerais, ce serait peut-être de se recentrer sur les choses importantes. C'est son amitié, sa meilleure amie, par exemple, qu'on voit un petit peu qu'elle abandonne au fur et à mesure pour d'autres questions, justement, de popularité, etc.
Ouais, bien sûr, l'amitié. J'ai voulu un peu montrer que l'amitié était hyper importante à cet âge-là et qu'en même temps, qu'elle était aussi source de friction et aussi d'insécurité. Effectivement, Pia, l'héroïne délaisse Pauline, sa super bonne amie badass, c'est vrai.
Vas-y, du coup, Jade, t'avais une autre question ? Dernière question ?
Une petite dernière question. Alors, imaginons que tu es à la place de Pia.
Ouais.
Qu'est-ce que tu ferais ?
À quel moment ?
Du coup, on parlait de sexualité, on va rester dans ce domaine.
Ok.
On va dire, tu vas faire ta première fois. Et sans trop spoiler, du coup... Là, je bug un petit peu.
Parce que t'es là en mode, comment on fait pour en parler sans spoiler
C'est exactement ça.
Aujourd'hui, je me demande si je désire la personne qui est en face de moi ou non, si je le ressens, et si c'est pas là, je fais demi-tour, je ferme la porte.
T'y vas pas. Et c'est un très très bon conseil en plus. Mais c'est ce qu'on disait, c'est un conseil que je pense qu'on aurait aimé avoir, en tout cas Marguerite et moi, parce que on a le même âge. C'est un conseil qu'on aurait aimé avoir il y a plusieurs années, et il y avait très peu de communication sur ce sujet-là. Maintenant, vous avez plus de communication sur ça et de dire « Ah bah oui, effectivement, si tu ressens pas le désir et si tu t'en pas complètement prête ou prêt, il faut pas y aller, il faut juste attendre un petit peu, quoi. »
C'est-à-dire que j'ai voulu parler du rapport sexuel comme une étape obligée et pas comme quelque chose qu'on désire voilà. C'est-à-dire la notion de consentement, en fait, n'était pas du tout discutée. Moi, j'ai découvert même ce mot attaché à la sexualité il y a 5 ans avec la vague MeToo. Mais sinon, c'était pas un sujet, en fait.
En tout cas, merci Marguerite pour cette interview. Est-ce qu'il y a de prochains projets peut-être en préparation ?
Alors j'ai commencé à réfléchir sur un prochain projet dans un univers complètement différent. Ce sera a priori un roman graphique d'anticipation, toujours sur des questions sociales. Voilà, je peux pas en dire plus parce que c'est encore à l'étape de gestation.
Ouh. Bah, on attend avec impatience du coup l'autre projet. En tout cas, vous pouvez retrouver Fraîche dans votre librairie la plus proche. Moi, je sais que je l'ai découvert à l'Illustrarium dans le centre de Mantes. Hein. C'est une super boutique pour les fans de BD. Et c'est vraiment le lieu où vous pouvez dégoter vraiment des trucs cool, que ce soit des mangas, des bandes dessinées, enfin ce que vous voulez. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux peut-être, Marguerite ?
Oui, alors j'ai un compte Instagram que je nourris assez régulièrement. C'est Marguerite, sans E, underscore B.
Ok, super. Et on peut te suivre notamment pour tes futurs projets et aussi tes projets professionnels.
Ah oui, parce que je fais un peu de graphisme en parallèle. Donc voilà, pour des exemples de projets de design graphique, c'est plutôt sur mon site en effet, marguerite-boutrol.com.
Super. En tout cas, n'hésitez pas à aller la suivre. Et nous, on va se balancer un petit son pour faire une pause musicale. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite sur LFM Radio 95.5.
Écoute le meilleur du son d'hier à aujourd'hui sur le 95.5.
Yeah, my baby, my valentine. Can I do make you a temperature? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, I'm loving you.
LFM 95.5.
Et on se retrouve avec Jade sur LFM Radio 95.5. Jade, justement, tu nous as préparé un sujet assez quali cette semaine. Tu peux nous en dire plus ?
En fait, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, on va parler de remake et d'adaptation du classique. Alors, avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser. Pour vous, c'est quoi un classique ?
Ah ah, la question ! Vas-y, Jade.
Excusez-moi. Du coup, pour moi, un classique, ça serait une œuvre qui a marqué en fait son temps. Bon, je ne sais pas si on peut reconnaître directement qu'une œuvre soit un classique, tu vois. Genre, dès qu'elle sort, on se dit « Ah, ça, plus tard, ça va marquer les esprits, tu vois. » Je pense qu'il faut quand même un laps de temps avant qu'on se dise que cette œuvre est un classique. Mais pour moi, un classique, c'est quelque chose qui a marqué les gens, pas sur une année, tu vois, mais sur plusieurs générations.
Donc, ça peut être ça, un classique, c'est quelque chose qui va inspirer.
Puis même au cinéma, il y a beaucoup de films qui sont refaits, qui sont des nouvelles versions en fait pour les faire découvrir à cette nouvelle génération. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont tellement marqué les générations d'avant, ils veulent refaire pour et essayer de faire que ça marque cette génération aussi.
Et du coup, Jade, tu as des exemples de classiques, de remakes ?
Alors oui, par exemple, au cinéma, en fait, nous avons le Roi Lion, qui en fait est une adaptation de Hamlet de Shakespeare.
Ah ouais ?
Oui.
Et ben là, j'apprends quelque chose.
Mais du coup, c'est déjà un classique, le Roi Lion.
Un classique.
Oui, voilà, c'est... Bah, c'est incroyable, quoi.
C'est vrai, mais après, détrompez-vous, parce qu'il n'y a pas qu'au cinéma, en fait, qu'il y a des classiques ou que des artistes se sont inspirés du genre classique. Alors, par exemple, nous avons, en musique, nous avons les Beatles qui se sont inspirés de Beethoven. Oui, la musique Because, donc des Beatles, s'est inspirée de la sonate Clair de Lune.
Oh, je ne savais même pas. Pourtant, j'ai écouté celle-là.
Après, on a aussi des airs d'opéra comme O Sol Mio, qui a été interprété par les plus grands ténors comme Luciano Pavarotti et j'en passe des meilleurs, qui en fait a été interprété par Elvis Presley et qui est sous le nom maintenant de It's a Now or Never, qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Donc c'est quand même un bon succès.
Merci Elvis.
Merci le King. C'est ainsi que les artistes d'aujourd'hui s'inspirent des vestiges du passé, pour notre plus grand plaisir. Mais alors, si le classique a inspiré et inspire encore, pourquoi notre génération a si peu connaissance de ses origines, pardon, de nos artistes ?
C'est vrai ça ? C'est une bonne question.
Des idées ?
Dylan, vas-y, attends. Je te laisse la parole.
Attends, je réfléchis. tout le monde n'a pas forcément pu étudier ces classiques, en fait, que ce soit au collège, au lycée. À l'époque, c'était quand même très sélectif, tout ça. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, pour ma part, quand je vais à la FNAC, c'est vrai que je ne vais pas me tourner vers les classiques tels que Molière, tout ça. C'est vrai que je vais choisir peut-être plus une littérature peut-être plus contemporaine. J'essaye petit à petit, tu vois, de m'y avancer, tu vois, de m'y intéresser à cette culture parce que ça fait quand même partie de notre patrimoine. Au final, c'est quand même une partie de notre histoire.
Enfin, moi, ma question, c'est pourquoi nous, on ne va pas à la librairie acheter un bon Zola ou, tu vois, pourquoi on se dirige peut-être plus vers des trucs un peu plus modernes. C'est une question intéressante parce que c'est vrai que ça fait partie du patrimoine, mais pourquoi on n'y va pas de manière instinctive et pourquoi on est obligé de l'étudier à l'école pour vraiment en prendre connaissance. Je ne sais pas, peut-être que les sujets ne nous intéressent plus ou la manière d'écrire ou d'écouter parce que les styles ont vraiment évolué depuis le temps.
Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dylan. Mais du coup, si vous avez étudié certains classiques au lycée, au collège, etc., pourquoi beaucoup de nos jeunes, en fait, n'ont pas conscience qu'il y a beaucoup de nos œuvres d'aujourd'hui, des classiques ? Par exemple, beaucoup de jeunes ne savent pas que Harry Potter, en fait, de base, c'est un bouquin, ou que Le Seigneur des Anneaux, c'est également un bouquin, ou qu'en musique, beaucoup d'artistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont inspirés d'œuvres classiques. Donc peut-être que l'école nous a dégoûtés de cet univers-là.
Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple... Je vais pas mentir, hein, mais le livre au collège ou au lycée, je l'ai jamais lu.
C'est la question que j'allais vous poser justement. Est-ce que à l'école, ça vous intéressait d'étudier les classiques ?
En fait, moi, je lis par plaisir et quand on me forçait de lire un livre en fait dont je n'avais pas le choix en fait, et oui, ça me dégoûtait. Donc c'est vrai que pendant beaucoup de temps, je n'ai pas aimé lire. C'est vrai que au lycée, je lisais plus. Parce qu'on avait peut-être un peu plus le choix, tu vois, de lire, de choisir nos œuvres. Et surtout, parce que j'allais en librairie, tout ça. Et en fait, c'était...
Tu choisissais tes livres.
Oui, voilà, c'était par plaisir, en fait. Aujourd'hui, le numérique a pris beaucoup de place.
Et, c'est vrai, c'est vrai.
Je veux dire, aujourd'hui, quand tu parles d'Harry Potter, on parle plus des films que des livres. Alors que ça devrait être l'inverse.
Ouais. Et toi, Jade, du coup, est-ce que t'aimais bien lire à l'école ou regarder des trucs classiques ou c'est quelque chose qui te dégoûtait comme Dylan ?
Honnêtement, je suis un peu comme Dylan. Dès qu'on me forçait à lire un livre, je le lisais pas. Mais en fait, donc, j'ai un parcours scolaire un peu atypique. C'est-à-dire que je suis pas allée au lycée et je me suis intéressée aux classiques parce que ça faisait partie de la culture et parce qu'on l'étudiait en fait. Et donc, je me suis dirigée naturellement vers cet univers. Et en fait, j'ai kiffé ça. Mais je pense que c'est parce que je suis allée de moi-même vers ce milieu-là et qu'on ne m'a pas forcée du tout.
Oui, parce que pour préciser, tu as fait l'école à la maison, à partir du lycée, c'est ça ?
C'est ça. Non, ouais. À partir du collège.
À partir du collège, voilà. Donc, ça explique aussi pourquoi maintenant tu es à l'E2C, parce que tu as été hors les rails pendant un certain temps. Bah, merci Jade, en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde, bah, ça peut être des adaptations ou des récupérations de classiques, en fait. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais ce serait chouette qu'on le mentionne plus souvent. Vous en pensez quoi ?
Bah, honnêtement, je pense, je suis d'accord avec toi, mais non, je suis juste d'accord avec toi.
Je vais rebondir, du coup, je trouve que c'est vrai qu'on n'accorde pas assez de crédit à ce qui a été fait en fait avant, quand c'est repris, en fait, c'est pas assez bien mentionné, donc oui, ça serait bien qu'on le mentionne plus.
Plus souvent, ouais, carrément. Bon, on va faire une petite pause musicale avec King de Dadju, et on se retrouve tout de suite après pour la dernière partie de l'émission. Et moi, je vous dis à tout de suite sur LFM Radio, et bonne écoute.
LFM, la plus féminine des radios sur le 95.5.
Elle veut un king comme moi. Zizi. Comme moi. Oh, elle veut un king comme moi.
Mon ami, quand tu n'y arrives pas, faut laisser ta place.
Laisse.
T'as le bras trop court pour prendre ce qui brille dans l'espace.
Oui.
Laisse-moi m'occuper d'elle d'une manière efficace. On attaque mais on garde les buts comme Keylor Navas. Hey, moi je la connais, elle me connaît. On se follow, mais sans s'abonner ça commence par l'amitié. Mais y'a pas d'amitié, ce que tu veux pas netto, je vais lui donner. Je suis différent, de toi je suis différent. Je vais m'occuper de la réparer. La différence, la seule différence,
oui.
C'est quand elle m'appellera, je réponds.
La distance qui s'est créée entre vous, tu en es responsable.
Responsable.
Y'a plus rien à tirer de votre couple, t'es pas irremplaçable. Elle veut un king comme moi.
Elle veut un king comme moi.
Elle mérite un king comme moi.
Elle mérite un king comme moi.
Elle veut un king comme moi. Elle mérite un king comme moi. Comme moi.
Trop joué sur le fait que t'avais plus le temps. Maintenant je suis le nouveau titulaire, je suis pas ton remplaçant. Je fais tout ça pour qu'elle ne se sente plus jamais, jamais comme avant. T'as laissé partir celle qui change ma vie maintenant. Tu te rendais pas compte de ce que t'avais, monsieur l'irresponsable. T'as provoqué tout ça. Revenir maintenant, c'est plus envisageable. Comme un message dans le sable, effacé par les vagues, à jamais. De toi je suis
différent.
Je vais m'occuper de la réparer. La différence, la seule différence, c'est quand elle m'appellera, je réponds.
La distance qui s'est créée entre vous, tu en es
responsable.
Y'a plus rien à tirer de votre couple, t'es pas irremplaçable.
Elle veut un king comme moi.
Elle mérite un king comme moi.
Ce qu'il ne faut pas faire, je dois te remercier. Je regarde en l'air vers celui qui a décidé de me la confier. Je prendrai soin d'elle comme on prend soin de sa propre vie. Et sans promesse de lendemain, d'abord aujourd'hui. J'essaierai de tout faire pour ne pas devenir comme lui. Oui. Oh.
La distance qui s'est créée entre vous, tu en es responsable. Y'a plus rien à tirer de votre couple, t'es pas irremplaçable. Elle veut un king comme moi.
Elle mérite un king comme moi.
Elle veut un king comme moi.
Elle mérite un king comme moi.
LFM
95.5.
Et on se retrouve sur LFM Radio 95.5 pour notre dernière chronique. Dylan, tu nous as trouvé quoi ?
Bah, alors, c'est vrai que pour cette petite chronique, j'ai choisi de vous présenter deux expositions. Bon, et bien évidemment, il y en a plusieurs qui se déroulent au même moment, mais il faut faire des choix. Et ouais. J'ai surtout choisi des expositions qui durent assez longtemps. Donc, il n'y a pas de panique si vous ne pouvez pas y aller dans les prochains jours. Il y a du temps. Et du coup, la première exposition est une exposition qui se déroule du 2 mars au 10 juillet 2022. Elle s'intitule « Pionnière, artiste dans le Paris des années folles ». Cette exposition propose de mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité.
Génial.
Donc, plein de domaines artistiques sont de mise pour cette exposition. Peinture, sculpture, photographie, film, œuvres textiles et littéraires. Et tout ça, ça se passera au musée du Luxembourg qui se situe dans le 6e arrondissement de Paris. Et si j'enchaîne directement, et avant de te donner la parole, Jade, sur la deuxième exposition qui, elle, sera consacrée encore à une femme, bien sûr, une grande artiste, je parle de Romy Schneider. Cette exposition va faire revivre sa vie et sa grande carrière et vous permettra également de découvrir les débuts de l'actrice qui avait tout juste 15 ans pour son premier rôle et jusqu'à ses plus grands succès. Et cela se déroule à la Cinémathèque française dans le 12e arrondissement. Et les dates, c'est du 16 mars au 31 juillet 2022.
Génial, merci Dylan. Et toi Jade, tu nous as trouvé quoi comme livre à lire?
Alors, mon livre à lire, ça s'intitule « For Dead Queens », qui est écrit par Astrid Schlotz.
Si tu le dis bien.
Si je le dis bien. Et ce livre est un livre de science-fiction qui nous plonge au cœur d'un royaume divisé en 4 cadrans et dirigé par 4 reines.
Oh.
Paix, avancée technologique et santé, voilà la vie sur ce continent en apparence prospère. Mais c'est loin de cette façade idyllique que commence notre histoire, car c'est dans la pauvreté, le crime et les marchés noirs qu'une habile voleuse va se retrouver au centre d'un complot visant à tuer les souveraines.
Intéressant, ouais, j'ai trop envie de le lire celui-là.
Non mais franchement, ça a l'air vraiment intéressant ce qu'elle a dit. Le livre a l'air vraiment...
J'avais pas fini, mais...
Juste ça, c'est très intéressant. Vas-y, on te laisse finir.
Partagée entre le besoin de rester libre et son devoir de sauver son pays d'une guerre civile, notre héroïne va affronter son passé et ses peurs pour arrêter le massacre et rétablir la paix.
Oh, je veux trop lire ce livre, il a l'air trop bien.
Bah, si tu veux, je te le prête.
Ah ouais, carrément, il faudrait que tu me le prêtes à vrai. Et du coup, le deuxième, c'est quoi?
Alors, le deuxième s'intitule... Arrête de rire, toi, là-bas.
Je rigole pas du tout.
Alors, le deuxième s'intitule « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ?»
Ah, j'en ai entendu parler de celui-là.
Depuis plusieurs années, les femmes combattent pour les droits de la femme. Elles sont sur tous les fronts, que ce soit pour l'égalité, pour stopper les violences faites aux femmes ou encore pour les droits de la femme. Mais Titu Lokop, l'autrice de ce livre, mène un combat différent des autres. Elle souhaite à travers les pages de ce livre nous faire prendre conscience qu'il manque des chapitres à nos livres d'histoire. Chapitres qu'elle nous conte dans son ouvrage. Préhistoire, néolithique, antiquité ou encore renaissance, elle passe par toutes les périodes et donc rend hommage à ces femmes du passé, mais aussi aux femmes d'aujourd'hui, en nous délivrant les secrets de notre histoire. C'est pourquoi je vous recommande ce livre.
Et oui, je pense que c'est un sujet très très important parce que franchement, si je vous demande de citer une personnalité historique, vous pensez à qui?
En femme?
Pas en femme, mais forcément les deux. Napoléon, ok,
Napoléon.
Toi Dylan.
J'allais dire la même, Napoléon.
Tu vois, instinctivement, c'est un nom d'homme. Voilà, Charles de Gaulle, Napoléon, Louis XIV, on penserait que à des noms d'hommes parce que les femmes, elles ont été supprimées des livres d'histoire, à part peut-être Marie Curie.
Ou encore Jeanne d'Arc ou la Sainte-Geneviève aussi.
Exactement.
Je sais que je vous ai perdu.
C'est des noms qui sont importants et dont on ne parle pas. Enfin, il faut savoir, les femmes ont été volontairement supprimées des livres d'histoire.
Et donc, grâce à ce livre, grâce à Madame Titu Lokop, j'espère que je prononce bien, on fait une sorte de remise à jour. Après ça, on voit l'histoire, notre histoire, d'un autre œil. Et ça remet beaucoup de choses en question. C'est pour ça que je vous recommande ce livre. Franchement, il est très intéressant et je l'ai beaucoup aimé.
Celui-là aussi, il faudra que tu me le prêtes.
Aucun problème.
En tout cas, merci Jade et Dylan d'avoir participé à l'émission et d'avoir été de super chroniqueurs aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé.
Oui.
Il y a eu un petit peu.
Oui, franchement, c'était super génial. C'était génial.
Oui. Franchement, de travailler.
Merci Madon de nous avoir accueillis.
Écoute, je compte sur vous pour revenir, en tout cas, pour une prochaine émission, une prochaine chronique peut-être.
Oui, bien sûr.
Et en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment une belle réussite dans vos projets, que ce soit vos projets perso ou professionnels. C'est important. Et c'est déjà l'heure de se quitter. N'hésitez pas à rester à l'écoute parce qu'on diffuse juste après du Doja en feat avec Taiga sur leur son Freaky Dicky. Et puis juste après, vous pouvez retrouver notre Girls Mix de la semaine de midi à 14h. Et moi, en tout cas, bah, je vous dis à la semaine prochaine dans Expression Directe.